Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci d'être avec nous. On parle ce matin de cette nouvelle nuit d'angoisse dans la capitale du Burkina Faso. Vous l'avez entendu dans le journal, au moins 18 personnes ont trouvé la mort dans un restaurant du centre de la capitale burkinabé. Après les attentats de Bamako, de Grand Bassam et de Ouagadougou déjà en janvier 2016, comment assurer la sécurité en Afrique de l'Ouest? Peut-on prévenir les attaques? Les mesures de fouilles, les patrouilles peuvent-elles dissuader les terroristes? Pour lancer le débat, on accueille Ludovic. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour RFI.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation sécuritaire? Est-ce que le dispositif mis en place à Ouagadougou est suffisant selon vous?
Avant tout, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés qui sont pris en charge dans nos centres hospitaliers. Par rapport à votre question, j'ai de préciser quelque chose d'important. Dans aucun pays du monde, vous prenez la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis et bien d'autres, malgré les moyens colossaux qui sont mis à la disposition des questions sécuritaires, ils ne sont pas nombreux à l'abri d'attaques terroristes. Partant, un pays comme le Burkina Faso, qui est confronté à d'énormes difficultés socio-économiques, qui se bat pour effectivement assurer un essor socio-économique de ses populations, est aujourd'hui en proie à des attaques terroristes. Mais quelle approche nous pouvons avoir? Nous avons été victimes d'une première attaque le 15 janvier 2016. Et cela a été véritablement une situation désastreuse.
Mais une attaque qui avait fait 30 morts en janvier 2016, quasiment au même endroit, à quelques mètres au Café Cappuccino, qui est à quelques mètres du restaurant Istanbul qui a été attaqué hier soir. Ludovic, est-ce que depuis, la sécurité avait été renforcée?
Oui, là il faut tirer un chapeau au gouvernement qui a mis des moyens. C'est vrai que les moyens ne suffisent jamais, mais il y a eu des efforts, il faut le dire. Et je vous donne un petit exemple. Quand vous prenez la prise en charge de l'attaque du 15 janvier 2016 et la prise en charge de l'attaque d'hier, véritablement, vous avez vu la réactivité de nos forces de défense et de sécurité. Et dès l'annonce des coups de feu, ont rapidement quadrillé le secteur et commencé à sécuriser les lieux, faciliter l'enlèvement des blessés pour les transférer dans les centres hospitaliers. Et également au niveau de la prise en charge, au niveau des hôpitaux, véritablement, on a senti qu'il y avait une amélioration par rapport à la première fois.
Donc pour vous, Ludovic, il y a quand même certaines leçons qui ont été tirées de l'attaque de janvier 2016. Restez avec nous, Ludovic, on va accueillir un autre auditeur qui se trouve également à Ouagadougou. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour, Anne.
Est-ce que vous pensez, vraiment, comme Ludovic, que l'on vient d'entendre, que le dispositif sécuritaire est suffisant?
Oh non, on ne pourra jamais parler de dispositif sécuritaire suffisant, surtout dans les pays comme les nôtres, qui sont tellement dépendants de l'Occident et de l'extérieur pour assurer même leur propre sécurité. En réalité, après les premières attaques de janvier, effectivement, il y a eu pas mal de mesures de contrôle sur les différents axes routiers, aux principales entrées de la ville et tout cela, mais très rapidement, toute cette attention, ça s'est estompé. En fait, on s'est assis dans une situation où on a pensé qu'il n'y aurait plus d'attaque comme ça. Et maintenant, on rentre très facilement sans même que au checkpoint, on vous demande d'ouvrir votre coffre pour voir si vous transportez des armes ou pas. Donc je pense qu'il y a eu un effort qui a été fait, mais très rapidement, on a baissé les bras. On est retombé dans une situation normale et puis voilà quoi.
Mais Luc, est-ce qu'on peut maintenir ce genre de dispositif en permanence? Parce que je vous cite par exemple le commentaire d'Emmanuel sur Facebook qui nous dit « On ne prévient pas une attaque terroriste, l'ennemi a toujours de l'avance, il sait où attaquer, quand attaquer et qui attaquer ». Luc, est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir en permanence un dispositif sécuritaire très élevé tout le temps, partout?
Oui, mais bon, partout, très élevé peut-être pas, mais au moins faire un minimum. Ne serait-ce que là où il y a les checkpoints, au moins qu'on vérifie les coffres, des véhicules qui rentrent et qui sortent de la ville et tout ça, les mouvements. Parce que les checkpoints sont là, mais quasiment, bon, c'est juste bonjour, et puis les gens passent, quoi. Maintenant, moi, je pense que, en fait, nos États, le problème, c'est que nous dépendons beaucoup trop de la France et des aides extérieures pour notre propre sécurité. Et ça, c'est un véritable problème, parce que nos dirigeants sont quasiment installés dans une mentalité de mendiants qui font qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et ça, c'est tout autre, un autre pan du chapitre encore de problèmes à régler.
Merci, Luc, de nous avoir appelé. Ludovic, vous êtes toujours avec nous ?
Toujours en ligne, oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre ?
Bon, non, je pense que ce qu'il dit, effectivement, je ne rejette pas totalement sa position, mais il y a une réalité. Vous savez que la sécurité coûte très cher. Et ce qu'il y a lieu de préciser, c'est que un pays comme le Burkina, depuis l'attaque terroriste du 15 janvier 2016, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais les mesures dissuasives ne peuvent que contribuer. Mais c'est pas elles seules qu'elles peuvent effectivement résoudre le problème. Il y a des mesures endogènes, je dis aujourd'hui, il y a le partage d'informations, il y a beaucoup d'autres choses. Nous n'entrons pas dans les stratégies militaires et sécuritaires, mais je vais dire, chacun de nous, voilà que j'ai le téléphone en main, je vous parle tout de suite. Mais je peux être dans la minute qui suit, après avoir accroché une victime. Il faut qu'on intègre cela comme une donnée, que nous soyons sûrs que nous pouvons être une victime potentielle à tout moment pour ce qui est des attaques terroristes qui ne préviennent pas. De ce fait, il faut que chacun puisse contribuer également à sécuriser. Les forces de défense et de sécurité lancent un appel aux gens pour effectivement la participation, à donner des informations. Vous voyez des gens qui sont suspects, qui viennent, qui habitent dans votre quartier, et qui ont des comportements suspects. Mais vous devez avoir une réaction. Il y a souvent des gens qui laissent après coup, ils disent qu'ils auraient dû, pourtant ils logeaient à côté de chez nous, ils avaient loué une villa, ils évitent les hôtels parce qu'on a plus de visibilité, de contrôle là-bas. Donc il y a beaucoup de mesures également que nous, en tant que population citoyenne, que nous avons également le devoir de faire pour assurer la veille sur le plan sécuritaire.
Donc selon vous, il faudrait que tout le monde soit plus vigilant, Ludovic ?
Plus vigilant, la vigilance doit être de permanente et, je dirais, partagée.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant un autre auditeur. Bonjour Mouamadou.
Bonjour RFI, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation, de ce nouvel attentat à Ouagadougou, donc le deuxième en deux ans, à peine, en un peu plus d'un an et demi? Est-ce que vous pensez qu'il existe un moyen de prévenir ce genre d'attaque?
Le risque sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne, elle est permanente. Et comme l'ont dit en partie mes prédécesseurs, on ne peut pas éradiquer actuellement la menace terroriste. Le Burkina n'a ni la logistique suffisante, ni les ressources humaines en qualité suffisante pour cadrer tout le territoire national.
Est-ce que vous vous sentiez menacé, vous, à Ouagadougou ?
Pas plus qu'ailleurs. Je ne suis pas menacé pas plus qu'ailleurs. Ce qui m'étonne, c'est que les terroristes soient venus frapper au même endroit. Cappuccino et puis Aziz Istanbul.
Cappuccino, c'était le café qui avait été visé en janvier 2016 et effectivement il se trouve à quelques centaines de mètres du restaurant Istanbul qui a été visé hier soir.
Exactement. Et que les terroristes soient venus frapper dans la même zone, c'est ça qui m'étonne. Sinon, le risque sécuritaire, j'avoue que moi je n'en veux ni aux dirigeants du Burkina, ni aux forces de défense et de sécurité, parce que la menace terroriste là, le Burkina ne peut pas faire exception dans l'espace sahélo-saharien. Et qu'il y a, c'est qu'il faut renforcer les mesures de renseignement. Que, comme l'a dit également Ludovic, que la population se sente concernée également par la question sécuritaire. Il faut dénoncer, ne pas faire de la délation, certes, mais dénoncer tous les mouvements suspects qu'on peut être amené à suspecter et donc aviser les forces de défense et de sécurité.
Mouamadou, vous parlez beaucoup de l'ensemble de la région. Qu'est-ce que vous pensez de la force du G5 Sahel qui a été officiellement lancée au début du mois de juillet et qui réunit le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et donc le Burkina Faso et qui est censée constituer une force antiterroriste de 5000 hommes pour toute la région?
Je pense que les États du G5 Sahel se hâtent très lentement. C'est une très belle initiative, mais je pense que les choses vont très lentement. Et il faut que nos États, avec le peu de moyens qu'ils ont, qu'ils accroissent leurs capacités opérationnelles. La France en soutien. Ce n'est pas de la mendicité. Ce n'est pas de la mendicité. C'est un soutien logistique et de renseignement que nous sollicitons de la part de l'Union européenne et des Nations unies. Donc le G5 Sahel, c'est une très bonne chose, mais il faut que nous allions très vite dans l'opérationnalisation de cette force-là. Il faut que l'ONU nous aide. Ce n'est pas de la magnifique, il y va quand même de la stabilité et du développement des pays sous-développés comme le Burkina, très pauvre. On a peu de moyens, mais il faut qu'on fasse avec.
Mohamadou, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je vous rappelle le numéro pour participer, 339 693 693 70. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous laisser des messages sur Facebook et Twitter. Retour au standard, qui est avec nous, Alpha, bonjour.
Oui, bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale. Dans la douleur, hein, consternation, parce que 18 mois, c'est trop, pour rien. 18 mois pour rien, et je vais appuyer ce que les prédécesseurs ont dit. On ne peut pas rester dans la fatalité, on est contraint de nous défendre, et avec tous les moyens. Tous les moyens, d'abord, on ne peut pas aujourd'hui faire face parce qu'on ne connaît pas l'ennemi. Il est parti nulle part, il a un visage, il n'a pas de visage. À tout moment, comme un intervenant l'a dit, moi-même qui parle, je peux être non loin de l'individu en question qui peut semer la terreur. Donc il faut une solidarité, il faut encore se donner la main, il faut que chaque citoyen, à l'heure actuelle, il faut qu'on change de manière de vivre et se donner la main dans l'information. Il faut être rapide. Et surtout nos forces de l'ordre, comme quelqu'un aussi l'a déjà dit, on ne peut pas refuser de l'aide. Non, on a besoin de l'aide de toutes ces puissances pour, en tout cas, rendre nos forces de l'ordre efficaces. Parce que c'est le temps de réaction. Mais on a vu quand même qu'il y a eu plus de rapidité dans la réaction que la première fois. Bon, la première fois, on a vu qu'il fallait attendre que... mais cette fois-ci, en rien de temps, dès les premiers coups de feu, les forces de l'ordre ont quadrillé la zone. Et nous félicitons cela, mais il reste beaucoup.
Oui, c'est vrai que les forces de sécurité sont arrivées très rapidement sur place, qu'un dispositif était déjà pensé, réfléchi. Ça a été très vite pour évacuer les habitants du quartier, par exemple. Ce sont des progrès. Vous parliez de la nécessité de renforcer aussi le niveau de renseignement dans la région. Est-ce que vous pensez, comme nous le disent plusieurs auditeurs, et notamment Ignace sur Facebook, qu'il faudrait aussi renforcer le contrôle aux frontières?
Oui, ça, le contrôle doit être systématique. On ne doit pas relâcher à ce niveau, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, quand c'est comme ça, il faut qu'on contrôle tout le monde. On ne peut pas avoir confiance à quelqu'un comme ça, sans le contrôler. Il faut que le contrôle reste permanent et que les gens s'habituent et acceptent d'être contrôlés, parce que ça y va de la vie de tout le monde. Voilà, le contrôle doit être systématique et puis bon, permanent. Voilà. Et l'information doit passer et que nos forces de l'ordre aient les moyens, qu'on dote les moyens nécessaires d'intervention rapide. Voilà, et que ces forces de l'ordre puissent en tout cas intervenir en temps réel. Parce que,
ces moyens, Alpha, est-ce que ça passe également par une aide extérieure? La France, par exemple, a envoyé ce matin un message de condoléances et proposé son aide. Est-ce que c'est une aide bienvenue, selon vous?
Oui, bienvenue. On ne peut pas refuser, parce que c'est un phénomène mondial. Il faut qu'on arrête de croire que c'est les mots indépendants et autres. Là, il faut laisser ça là-bas, parce que c'est la vie. C'est la vie des populations qui est en jeu. La France a les moyens de nous aider. Il va falloir même demander cette aide-là pour rendre efficace nos forces de l'ordre, pour rendre le côté sécuritaire-là efficace. Et puis, assurer de manière définitive. Parce que ça va être difficile, c'est vrai. On ne peut pas faire face seul. Le Burkina n'a pas ces moyens-là. Il y a pas de honte à dire à l'ONU de nous doter. La formation, d'abord professionnelle, le matériel, il faut tout ça, c'est difficile d'avoir ça en temps plein. Il va falloir que les puissances, les grandes puissances comme la France, comme les Nations Unies, puissent aider les pays africains, surtout le Burkina Faso, qui vient d'être attaqué, on va dire, et de deux. Pourquoi et de deux? Oui, c'est quand même, et puis au même endroit. 18 mois, c'est trop.
Donc il ne faut pas hésiter à, pour le Burkina Faso, à demander de l'aide extérieure et pour la communauté internationale à s'impliquer davantage. Merci beaucoup Alpha de nous avoir appelé. Nous allons accueillir maintenant Salamatou. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes également à Ouagadougou. Comment était l'ambiance ces derniers jours? Est-ce que vous trouvez que le dispositif de sécurité était suffisant? Et est-ce que vous sentiez une menace dans la capitale burkinabé?
Bon, sentir la menace, c'est tous les jours qu'on sent la menace. Depuis que les terroristes se sont engagés dans cette guerre asymétrique, il n'y a pas un jour où tu sors, où tu vas croire que tu vas revenir chez toi. Mais ces derniers temps, les contrôles avaient cessé à Ouagadougou. Mais hier, à ma grande surprise, dans tous les coins de Ouagadougou, en tout cas moi, les coins que j'ai eu à emprunter, il y avait des contrôles. Tous les 1 km ou 500 mètres, on a été contrôlés. Mais c'est quel genre de contrôle? On vous arrête, on prend les pièces, on regarde, on vous dit de passer. Et j'étais avec ma fille. Le troisième contrôle, elle me dit, non, maman, moi je crois qu'ils ont une information. Et des terroristes ont dû intégrer Ouagadougou. Infiltré dans Ouagadougou. J'ai dit, ah, moi-même, j'ai l'impression. J'ai dit, mais ils ne nous ont même pas demandé d'ouvrir nos coffres.
Donc, vous trouvez que le système sécuritaire avait été renforcé?
Oui, hier, dimanche. Sinon, depuis plus de 2 mois, il n'y avait plus de contrôle dans la ville de Ouagadougou. C'était des militaires postés qui arrêtaient les jeunes qui brûlaient les feux, les voitures qui brûlaient le feu, on vous arrête et on vous pénalise. Mais les contrôles qu'on connaissait il y a 2-3 mois, ça avait complètement disparu. En tout cas, moi, les zones que je fréquente.
Ça avait diminué ces derniers temps. Merci beaucoup, Salamatou, de nous avoir appelé. Je vous interromps un petit peu, je suis désolée, mais la ligne n'est pas très bonne. On va accueillir un autre auditeur. Bonjour, Casimir.
Bonjour, Alexi.
Est-ce que vous pensez, vous, que le système de sécurité était suffisant et qu'on peut prévenir ce genre d'attaque?
Difficile à prévenir, mais je pense qu'on peut prendre des mesures pour mieux endiguer le phénomène. Et dans cette lutte contre le terrorisme, il ne faut jamais baisser la garde. Et je vous donne des exemples. Alors, moi, je bouge très souvent pour mes activités. Et plusieurs fois, je suis arrivé au poste de contrôle. Bon, on s'est contenté de me demander les pièces du véhicule. Jusqu'à ce qu'un jour excédé, moi, j'ai dit, mais vérifiez mon identité, regardez dans le coffre, est-ce que moi je ne transporte peut-être pas quelque chose de dangereux pour la République? Alors, et le policier a souri et puis bon, il m'a laissé continuer tout en relevant le numéro du véhicule. Bon, 2 ou 3 heures après, au retour, bon, il m'arrête, il demande les pièces, il vérifie, il me dit d'ouvrir le coffre, j'ouvre, et la question qu'il me pose, où est votre caisse à outils? Je dis, mais je suis pas un mécanicien. Que mon véhicule tombe en panne, je ne fais qu'appeler le mécanicien et puis vient me dépanner ou bien on vient me tracter, c'est tout. Voilà un exemple où il y a une baisse de vigilance.
Une baisse de vigilance selon vous et au niveau de la région, au niveau de l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous trouvez que le niveau de sécurité, d'échange d'informations est suffisant?
Pas du tout. Je trouve qu'il n'y a même pas assez d'échanges. Et je pense qu'au niveau du G5, où on est vraiment menacé, que nos chefs d'État acceptent de signer ce qu'on appelle le droit de poursuite. Le droit de poursuite pour que, lorsqu'il y a attaque au nord du Burkina et que les terroristes fuient pour le Niger ou bien pour le Mali, que les Burkinabés traversent sans avoir nécessairement obtenu 2 ou 3 heures après une autorisation. Mais
De permettre que les militaires de chaque pays puissent poursuivre des terroristes de l'autre côté de la frontière. Merci beaucoup, Casimir, d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé. On se retrouve demain. Nous parlerons du Mali, de l'enquête des Nations Unies sur les fosses communes et les exactions commises par les groupes armés dans la région de Kidal. Dites-nous ce que vous attendez de cette investigation. À demain.